De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ce soir, dans cette conférence de carême, qui est aussi le cycle 1 de formation fondamentale, dans lequel nous avons intégré différents thèmes, comme le Seigneur, source de la miséricorde, ou Jésus, chemin, vérité et vie, qui complète le credo, mais donne une dynamique. Ce soir, nous allons voir ce qu'est l'itinéraire du croyant, et aussi ce qu'est la vie morale. Non pas précisément tous les points, j'allais dire de vie morale, ce qui est un jugement, ce qui est les préceptes de l'Église, vous le verrez une prochaine fois, dans une prochaine conférence, mais donner un peu la dynamique du croyant. Voilà. La dynamique de suivre le Christ. Au niveau spirituel, et du coup aussi au niveau incarné, dans la vie de l'Esprit, qui concerne la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique. Vous savez, il y a quatre parties. Première partie, c'est le credo. Deuxième partie, ça concerne la célébration, c'est-à-dire les sacrements. La troisième partie, la quatrième partie, c'est la vie de prière. La troisième partie, c'est la vie dans l'Esprit. Comment un disciple vit avec l'Esprit Saint, suit le Christ. Et ça concerne tout l'agir moral. Voilà. La vie morale est rattachée à la vie dans l'Esprit. C'est intéressant de se dire cela. Voilà. Pour être saint, c'est tout un. Alors, nous allons méditer ce soir ce verset de l'Évangile en saint Jean, chapitre 14, verset 6. Le Christ qui dit aux disciples, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous pouvons entendre de grands saints avoir commenté ce verset de la manière suivante. Voilà ce que dit saint Augustin. Il est le chemin, et celui qui va par le chemin, et le lieu où il va. C'est pourquoi lui-même va par lui-même vers lui-même. Je répète, il est le chemin et celui qui va par le chemin est le lieu où il va. C'est pourquoi lui-même va par lui-même vers lui-même. Et oui, l'expérience du Christ comme chemin, c'est effectivement celui qui est au démarrage, celui qui nous accompagne sur le chemin et en même temps notre terme. C'est mystérieux, mais nous allons vers Jésus, avec Jésus, et c'est Jésus qui commence avec nous, par lui, avec lui et en lui. Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur saint Jean, dira « Ce chemin n'est pas distant du terme, mais il lui est conjoint. » Il ajoutera « la vérité et la vie ». Et ainsi, lui-même est en même temps le chemin et le terme. Le chemin, certes, selon son humanité, le terme selon sa divinité. Ainsi donc, selon qu'il est homme, il dit « Moi, je suis le chemin ». Et selon qu'il est Dieu, il ajoute « La vérité et la vie ». Voilà. Si le Christ n'était qu'un homme, nous pourrions le suivre longtemps, mourir avec lui, point barre. Si le Christ est vrai Dieu, vrai homme, nous pouvons suivre son humanité, mourir avec lui, mais pour ressusciter avec lui. Et pas en suivant son humanité, nous pouvons connaître toute la vérité, comme dirait saint Thomas d'Aquin, selon sa divinité. Toute la vérité. Et toute la vie. À nouveau, comme saint Thomas d'Aquin, la vie. Et Jésus dira en Jean 10:10 qu'il est venu pour donner la vie, et la vie en plénitude. Voilà, ce que nous cherchons, c'est la connaissance de nous-mêmes, la connaissance la plus profonde sur le monde qui nous entoure, la connaissance de Dieu, la connaissance de notre fin, F-I-N, et nous voulons goûter à tout cela. Ce n'est pas simplement la vérité, la connaissance que nous voulons de tout cela, nous voulons y goûter pleinement, nous voulons la vie. Et si nous suivons le Christ en plénitude, celui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, nous allons goûter tout cela. Alors il est évident que, en ce début de carême, il est bon de méditer tout d'abord ce qu'est le chemin. Voilà, notre aspiration à suivre celui qui est le chemin, la vérité, la vie, ou nos questions peut-être encore que nous pouvons nous poser en disant « Est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus ?» qui est le chemin, la vérité, la vie, voilà. Cette idée de cheminer, elle est très importante, surtout dans ce moment du carême qui démarre, puisque nous allons revivre l'expérience d'être pèlerin. Voilà. C'est très important parce que nous sommes, et cette expérience, nous la vivons liturgiquement, mais il nous faut la vivre existentiellement tout le temps, parce que nous sommes trop sécularisés dans notre société. Nous sommes trop sécularisés et souvent la foi, on peut peut-être entendre la vérité, et encore, on est dans la relativité. La vie, ça dépend ce qu'on entend, mais le chemin, il ne faut pas que ça bouge trop. On est très immobiliste. Or, le chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui bouge, parce que son Seigneur bouge, parce qu'il a dit qu'il est en marche, il est le chemin. Et il ne dit pas « reste chez toi et fais ce que tu veux », il dit « suis-moi et fais ma volonté ». Donc, ça déplace. Et donc, pour des sécularisés, des sédentarisés, il faut peut-être retrouver l'aspect décapant de ce qu'est suivre Jésus qui nous déplace. Et le carême, c'est fait pour ça, pour nous décaper, pour nous remettre en mouvement. La liturgie nous y invite, puisque nous allons méditer tout l'exode, tout ce déplacement du peuple de Dieu qui part en chemin. Voilà. Et plus nous avancerons dans le carême, plus nous allons nous rapprocher de la présence du Seigneur jusqu'à avoir la semaine sainte où nous allons continuer le chemin vers Jérusalem pour mourir avec lui et ressusciter avec lui. Voilà. Donc nous vivons une expérience de pèlerin dans ce carême qui est à condenser de l'Ancien et du Nouveau Testament avec les éléments centraux, la Pâque, la traversée, voilà, la traversée, le chemin. Et pour nous prendre conscience profondément que l'homme est un pèlerin sur terre. L'homme est un pèlerin sur terre. D'ailleurs, l'Église, dans son mystère, on dit qu'il y a trois dimensions du mystère de l'Église. L'Église souffrante, le purgatoire, l'Église glorieuse, le ciel, et l'Église militante ou en pèlerinage, c'est l'Église ici-bas. Donc on est en pèlerinage, on est en marche. On est en marche. Alors dans l'Écriture, cette notion de se déplacer, ça commence déjà avec Abraham. Voilà, Abraham s'est mis en route, nous dit la Genèse au chapitre 12, et le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous dira qu'il est parti dans la foi sans savoir où il allait. Donc il y a un déplacement d'Abraham qui se fait dans la foi. Voilà. Il va se mettre en marche. On va voir que ce chemin est fécond, puisque Abraham est le père des croyants. L'élément central de la spiritualité de la marche dans l'Ancien Testament, c'est évidemment l'Exode, où Israël va être libéré par Dieu par un déplacement en sortant dans le désert. Et dans le désert, en marchant, Israël va côtoyer la présence de Dieu sous la nuée, dans l'attente de la rencontre, où Dieu va guider. Dieu va faire expérimenter la dépendance par la manne. Voilà. Donc on ne peut pas expérimenter la présence de Dieu si on ne se met pas en marche. Dieu n'est pas dans le confort. On ne peut pas expérimenter la présence, le don de Dieu si on n'est pas dans la dépendance. Vous voyez ? Donc toute la culture sécularisée du confort n'aide pas à découvrir la présence de Dieu. Il faut se mettre en chemin. C'est pour ça qu'à notre époque est très à la mode ceux qui vont sur les chemins de Saint-Jacques et découvrent Dieu, parce qu'ils revivent existentiellement quelque chose de la marche d'Israël, de celui qui se met en marche. Vous voyez, précarité, dépendance, on sait où on va, mais on ne sait pas encore comment on va y arriver. Et Eh bien, c'est un peu ça l'expérience d'Abraham. Simplement, Abraham, il ne savait pas le terme tout court. Donc voilà, ça c'est vraiment, dans l'Ancien Testament, c'est très fort. Et du coup, pour Israël, le cheminement est un processus de libération. La traversée de la mer va être le lieu de la Pâque. Voilà, le chemin est le lieu de la libération, où Dieu agit. Et d'où l'expression après, avoir cheminé. Voilà, avoir cheminé. Et ça va s'inscrire après dans la spiritualité, vraiment même de la morale. Quand nous regardons les psaumes, le premier psaume que nous avons entendu en début de carême, psaume 1, il nous est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni la voix des pécheurs, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais il se plaît dans la loi du Seigneur. » Voilà. Celui qui ne suit pas le mauvais chemin, à contrario, celui qui suit le bon chemin. C'est le psaume des deux voies, le premier psaume. C'est-à-dire, il y a un chemin qui mène à la mort et un chemin qui mène à la vie. Voyez. Et donc, le fait de cheminer, en gros, c'est pour réussir aussi sa vie. Et Dieu va donner la loi, dans l'Ancien Testament, pour permettre à l'homme de cheminer dans la voie de la vie. Donc la loi est intimement liée au fait de marcher vers Dieu et au fait d'arriver à la vie. Qu'est-ce que c'est que la loi dans l'Ancien Testament ? La loi, d'abord, c'est le décalogue, les 10 commandements donnés à Moïse. L'Église nous enseigne que ces 10 commandements, l'être humain est capable d'y avoir accès naturellement. On appelle ça la loi naturelle. Avec la raison bien utilisée, tout homme non chrétien, non juif, pourrait y avoir accès. Mais comme l'homme est pécheur, il est blessé dans tout son être, affectivité, âme, etc., relationnel, image de Dieu, et aussi intellectuel, il a besoin que Dieu lui rappelle des choses naturelles, et Dieu lui redonne de manière révélée quelque chose qu'il pouvait avoir naturellement par sa raison. Donc Dieu lui redonne la loi, qui sont comme des balises pour choisir la vie. Car ne pas vivre la loi, c'est hélas, risquer la mort, le chemin de perdition. Donc on voit que c'est lié, notre vie morale, pour Israël, la vie morale, ça consiste d'abord à suivre le Seigneur. Et du coup, ça a comme conséquence le bonheur ou le malheur, et profondément la vie ou la mort. Tout est lié. Il n'y a pas une vie heureuse sans morale. Il n'y a pas une vie qui suit Dieu sans morale. Du coup, on comprend dans le catéchisme, la vie dans l'esprit, la vie avec Dieu, mais c'est la vie morale. Vous voyez, il faut respiritualiser toute la morale, non pas comme des préceptes qui nous sont tombés de haut, mais comme le lieu de l'union de la vérité avec Dieu. Et on va parler du chemin, vérité, vie, cette dynamique. Et ça, c'est important pendant le carême de redécouvrir tout cela. Les chrétiens, les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, vous avez cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2, chapitre 18, verset 25, si je ne me trompe pas, chapitre 24, verset 22, on les appelait les adeptes de la voie, V-O-I-E. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était ceux qui suivaient le chemin. C'était ceux qui suivaient le Christ, qui avait dit qu'était le chemin. Voilà ce que c'était. Les chrétiens sont des gens qui suivent le chemin. Donc ils s'inscrivent profondément dans la tradition biblique. Mais pour eux, qui est le Christ ? Le Christ ne compte. Et puis, celui qui prépare le Christ, Jean-Baptiste, dira aussi « Préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. » Quelque part, déjà, parce qu'il nous est donné à connaître pour un bon juif dans l'Ancien Testament, par la loi naturelle, par les préceptes, parce que Dieu a dit « Si on les dit bien, c'est déjà un chemin de vie. » Et ça nous permet d'avancer vers Dieu, préparer le chemin du Seigneur. Donc c'est une invitation à se convertir. Mais le Seigneur va aller plus loin, puisque le Seigneur, Jésus, ne va pas proposer un chemin particulier. Il va se proposer lui-même comme le chemin. Si Moïse, Abraham et tous les autres patriarches et les prophètes montrent le chemin et parlent d'un chemin, le Christ se considère comme le chemin, est le terme du chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, nous pouvons entendre ce qu'a dit Augustin. Alors, cette expérience-là, elle est proprement chrétienne. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que celui vers qui nous allons est déjà avec nous. Que celui vers qui nous allons, c'est lui qui a poussé en nous l'initiative pour avancer. D'ailleurs, il dira un jour, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Donc on est déjà en chemin parce que Jésus nous aide à marcher. Ça, c'est très important de se le rappeler quand par moment, on risque de se décourager. Parce que le chemin, parfois, pourra être dur. Et maintenant, nous allons pouvoir méditer. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin chrétien, le chemin de conversion, de vie dans l'esprit, de vie morale, ce mot-là est à réintroduire de manière noble dans le christianisme. Il a longtemps été évincé comme une sorte de tabou, il ne fallait plus parler de morale. Même l'État en reparle aujourd'hui. Donc parlons-en aujourd'hui de manière décontractée, mais chrétienne, bibliquement, spirituellement, totalement. Voilà. Ce chemin-là est un chemin de bonheur. L'être humain cherche le bonheur. Saint Augustin, qui a fait l'expérience de la recherche d'un chemin, dira quand il a trouvé celui qui est le chemin, la vérité, la vie, il dira « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Donc nous cherchons le bonheur. Nous cherchons le bonheur. Et si nous voulons nous mettre en chemin ou reprendre le chemin ou suivre vraiment tout ce que veut nous enseigner le Christ, c'est vraiment parce que nous croyons que c'est le bonheur. Et vous voyez, dans la personne de Jésus, on peut sentir qu'il est sur le bon chemin, dans la personne de Jésus. Ça a tellement marqué ses contemporains que des disciples de Jean-Baptiste ont vu Jésus et ont entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu » en Jean chapitre 1, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu » et après le verset 35, il est dit que Jésus marchait et que les disciples lui posèrent la question « Maître, où demeures-tu » Et Jésus leur a pas dit « J'habite à telle adresse, etc. » Il leur a dit « Venez, vous verrez, suivez-moi. » À d'autres endroits, le Seigneur dira « Viens, suis-moi. » Donc on voit l'expérience de se mettre en chemin. Jésus est attirant. Jésus est attirant. Jésus est attirant. Jésus propose une vérification de ce qu'il dit. Jésus propose une vérification de ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est ? Nous cherchons un chemin qui nous conduise à la plénitude. Nous cherchons un chemin qui nous conduise à la vérité. Aujourd'hui, plein de gens nous proposent des méthodes, des manières, des techniques, un plan tout prêt. Nous n'aurons rien de cela avec Jésus. Nous n'aurons rien de cela avec Jésus. Pourquoi ? Jésus ne dit rien d'autre que de le suivre. Mais ce qu'il dit, si nous le suivons, ça va se vérifier. En gros, Jésus donne une réponse expérimentale. Viens et tu verras. Tu verras les effets sur toi. Tu verras si j'ai dit vrai. Tu verras si ça te rend heureux. Donc en gros, on ne peut pas à l'avance avoir trouvé le bonheur. On est obligé d'avancer avec Jésus, de le suivre. Un chrétien qui sait tout à l'avance, mais qui ne fait pas un pas, vous savez, et je me mets dedans, il faut se convertir, celui qui connaît tout son catéchisme, mais qui n'est plus en chemin, en fait c'est quelqu'un qui ne chemine pas, c'est que dans la tête, c'est pas existentiel. Vous voyez, le problème de l'immobilisme, du confort sédentaire de notre société. Il faut se mettre en chemin. Jésus ne propose pas de solution, il dit « suis-moi ». Et ça, c'est très important. Et dans le fait de suivre Jésus, nous allons pouvoir être éclairés sur notre intelligence et de découvrir le bonheur. Le chemin conduit à la vérité et à la vie, conduit à la connaissance et à la vie. Si je prenais un exemple, imaginez que nous sommes en forêt. Nous sommes en forêt. Et la forêt est obscure. Et nous ne voyons pas plus loin qu'à 50 cm autour de nous, avec une petite lueur. Mais de très loin, nous voyons une petite étoile, une petite lumière très loin. Voilà. Et nous entendons intérieurement une parole qui nous dit « Suis-moi ». Alors, on peut voir l'étoile au loin, mais on ne sait pas du tout si sur le chemin obscur, il va y avoir des crevasses, un ravin, une flaque d'eau, un détour, un buisson qui nous empêche, etc. Rien n'est dit à l'avance. Et évidemment, comme nous sommes des gens qui sont très calculateurs, on aimerait faire le chemin si tout est planifié à l'avance. On voudrait tout savoir à l'avance, sinon on ne s'engage pas, évidemment. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie morale. Ce n'est pas la vraie vie spirituelle. Le Seigneur ne nous dit rien. Il nous dit, est-ce que tu veux me suivre? Je ne te dis rien du demain. Je te dis simplement pour aujourd'hui. Je ne te montre pas les trois pactes à faire. Je te montre juste le pas que tu dois faire maintenant. Et si tu ne fais pas le pas maintenant, si tu ne fais pas le pas maintenant, aujourd'hui, eh bien, tu ne pourras pas faire le pas de demain, parce que le pas d'aujourd'hui, il va éclairer le pas de demain. Abraham avançait sans savoir où il allait. Et souvent, nous calculons à l'avance. Nous sommes précautionneux, nous voulons tout savoir pour nous-mêmes, à la rigueur, avoir la carte et dire ça. Ce n'est pas vrai. Dieu ne fait jamais comme ça. Israël a erré dans le désert et il a été guidé mystérieusement par Dieu, comme Dieu l'a voulu. Voilà. Donc, il faut accepter que le chemin soit une démaîtrise. Je ne vais pas moi-même faire mon propre chemin et Jésus va me suivre. Ça, ce n'est pas la vie spirituelle. Jésus peut nous guider par des chemins qu'on n'a pas prévus. Les saints disent, Dieu trace des lignes droites avec des courbes. Dans la forêt, il va y avoir des virages. Et béni soit le Seigneur, il ne l'a pas dit à l'avance. Parce que s'il l'avait dit à l'avance, ce n'est pas sûr que je l'aurais suivi. C'est fait exprès. Voilà, le Seigneur nous demande un acte de foi. Mais le Seigneur nous demande un acte de foi, mais il nous demande notre responsabilité. Qu'est-ce que c'est que notre responsabilité? Et ce chemin, comme pour Israël, comme pour l'Exode, c'est un chemin de libération. Et là, on va toucher à la vie morale. Comment je suis d'abord le Seigneur de base? D'abord, le Seigneur me demande d'utiliser ma conscience. Le Seigneur a mis au fond de mon cœur un sanctuaire qui s'appelle la conscience, où je peux entendre la voix intérieure me dire « Fais ceci, ne fais pas cela », nous dit l'Église. Ce lieu-là est le plus intime de notre être. C'est là où nous nous autodéterminons en pensant ce qui est bien et nous pouvons y correspondre. Et nous avons devoir d'obéir à notre conscience, de nous respecter. Et Dieu parle dans la conscience. Il parle dans la conscience, le sanctuaire intime de tout homme, qu'il soit croyant ou non, parce que c'est un lieu sacré. Et personne n'a droit de violenter cette conscience. Et si nous voulons suivre le chemin, nous avons d'abord à écouter notre conscience. Voilà, très bien. Mais nous pouvons avoir la conscience abîmée par telle ou telle culture, sur tel ou tel point moral, conception de ma vie, conception de l'homme, de la femme, de la finalité, etc. Et donc tout homme doit rechercher la vérité. Donc tout homme doit chercher, a un devoir de cultiver sa conscience, de réfléchir, de l'éclairer, on dira à l'Église. Tout homme a le devoir d'éclairer sa conscience. En carême, on a le devoir de travailler sa foi, de savoir si nous sommes dans le bon chemin sur tel ou tel point. Le paresseux, il ne se respecte pas. Le paresseux, il fait honte à sa conscience parce qu'il doit toujours la travailler pour la purifier, pour y voir plus clair. Voyez ? Ça, c'est très important. Voilà. Parce que la certitude la certitude nous est donnée par Dieu, mais la certitude au niveau existentiel vient par un chemin. Plus nous cheminons vers quelque chose qui nous déploie, plus nous en avons la certitude. Mais celui qui a des préjugés au départ, voilà, sa conscience, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut travailler, il faut éclairer. Donc Dieu nous travaille par là, nous éclaire par notre conscience, et nous avons un devoir nous-mêmes de la travailler. Tout chrétien doit le faire. Et aujourd'hui, il est très important, frères et sœurs, de retravailler les points moraux. Voilà, de reprendre son catéchisme et de dire qu'est-ce que le Seigneur dit sur tel ou tel point? Est-ce que je suis dans le chemin de la vie ou de la perdition? Voilà. Et le Seigneur nous demande de le faire. Il ne le fera pas à notre place. Il ne le fera pas à notre place. Et le Seigneur nous rappelle les 10 commandements. Voilà, nous redonne. Et il ne les a pas enlevés. Il le dit lui-même, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et on voit qu'en Jésus se vit toute la loi. D'accord? Et aussi, Jésus va ajouter des commandements nouveaux. mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc un chrétien, sa vie de sa conscience, a un devoir de l'éclairer, sa vie le décalogue, ça se forme, ça suit les commandements de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, qui est déjà dans l'Ancien Testament, et ton prochain comme toi-même, mais avec Jésus, on va voir, c'est la nouveauté. Mais aussi, ça suit les préceptes de l'Église. Ah oui, mais les préceptes de l'Église, ce n'est pas Jésus qui les a donnés. Ah 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 ah, très bien. Mais les préceptes de l'Église sont une manière objective de suivre ou pas Jésus. C'est une expérience de la tradition qui elle-même est évolutive, par guidée par l'Esprit Saint, qui nous dit si oui ou non, sur tel ou tel point, objectivement, on suit Jésus. Nous avons toujours besoin d'un face-à-face, d'un GPS qui nous dit « Là, tu t'es égaré, mon grand. Là, tu es sur le chemin. » Voilà. C'est très important. Sans GPS, ben, on peut vite se perdre dans la forêt. Et il y en a très peu, vous savez, il y en a très peu. Prochaine fois, on vous en parlera, mais il y en a très peu. Mais vous voyez, tous ces éléments-là sont des éléments pour suivre le chemin. Et c'est nécessaire. Maintenant, je vais dire aussi autre chose. Soyons humbles sur ce chemin. Soyons humbles. Parce que parfois, tel ou tel point de ce que dit Jésus, de l'enseignement de Jésus, au niveau de la morale, de la vie dans l'esprit, de la vie du bonheur, va me sembler impossible à vivre dans ma vie. La grande tentation, c'est de se fabriquer soi-même son chemin, de dire « Non, ça, je ne peux pas le vivre, au revoir. » Très bien, mais j'enlève déjà un gros morceau du chemin, voire même peut-être une impasse au bout d'un moment. Et puis, parfois, le chemin, du coup, va tourner à cause de moi parce que j'ai dit non. Ce qu'il faut croire profondément, c'est que le Seigneur, il est là sur notre chemin. Si nous ne pouvons pas franchir l'étape suivante, il est avec nous pour nous aider. Donc, profondément, l'attitude du croyant, c'est dire « Seigneur, j'en suis là sur le chemin, aide-moi, aide-moi à marcher ». Trouve une solution, mais en aucun cas je remets en cause ta sainte loi, parce que ta sainte loi est ton chemin, comme dans l'Ancien Testament. Voyez, ça c'est important. Et si ta sainte loi me semble impossible à vivre, elle est possible avec toi. Voyez, il ne faut pas nous décourager. La vertu de l'espérance, dirait le père Marie-Eugène, c'est véritablement la vertu qui fait marcher. Dieu va m'aider sur le chemin. Dieu va me donner les moyens de jour le jour, d'avancer sur le chemin, comme la manne dans le désert pour avancer. Donc ça, c'est très important. Donc, l'attitude chrétienne profondément, c'est de n'enlever aucun iota du décalogue, de l'enseignement de Jésus et des préceptes qui nous sont donnés comme des balises. Voyez, pas un iota, nous dit le Christ, ne sera enlevé de la loi. Non, on n'enlève rien du chemin, parce que si on enlève un peu, on peut être tenté d'enlever plus et on peut se perdre. Alors, et on peut aussi être douté de la véracité du chemin en se disant « Mais non, c'est pas un chemin du bonheur, vous voyez. Pourquoi l'Église, sur tel ou tel point, est tellement exigeante? Non, vous vous trompez, vous êtes décalé, vous n'êtes plus vraiment à la page. C'est pas l'époque. Non, non, faut revoir. » D'accord, mais ça encore, on est avant le chemin. On le regarde de loin, on l'a pas testé. Quand on le prend, le chemin, qui est plus ou moins dur, avec Jésus qui est avec nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme découvre la vérité. Le chemin conduit à la vérité. Qu'est-ce qu'il découvre? L'homme découvre progressivement qu'au début du chemin, il se croyait en bon état. Et plus il avance sur le chemin, plus la lumière apparaît. C'est comme si on se rapproche d'une flamme. Il commence à être éclairé. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son péché. On découvre sur le chemin qu'on est plus pécheur qu'on se le croyait et qu'on a fait plus d'erreurs, plus d'infirmités qu'on ne le pensait. Et donc, on a été bien présomptueux de croire au départ qu'il fallait enlever le chemin, parce qu'on se rend compte en fait qu'on était un peu dans l'erreur. Et la lumière arrive dans notre cœur en étant de plus en plus claire sur telle ou telle chose de notre vie, tel ou tel point. Et en même temps, si vous voyez, si vous contemplez le Christ miséricordieux, c'est le rayon blanc, le rayon de lumière, le rayon de vérité. Mais en même temps, du même cœur, le rayon rouge, la douceur, la charité, ne juge pas. Dieu va montrer de plus en plus le chemin quand on le prend, la vérité sur nous-mêmes, mais jamais il ne va nous juger. Il va nous éclairer en nous aidant. La différence avec un autre juge, c'est que le juge dit, là, Dieu dit, je te montre et je t'aide. parce que j'ai compassion. Et je t'ai montré parce que j'avais compassion. Donc être éclairé sur soi-même progressivement, sur le chemin, c'est une grâce d'amour du Seigneur. Voyez ? Donc nous prenons conscience de notre fragilité, de notre péché. Israël qui cheminera prendra conscience que Dieu est, qu'Israël est pécheur devant le Saint. Plus nous avançons sur ce chemin que nous allons faire pendant le carême jusqu'à la semaine sainte, plus nous allons nous rapprocher de Jésus. Et quand nous allons voir Jésus sur ce chemin, qui peut se manifester à différents moments de notre vie pendant ce parcours de l'Exode, plus nous allons voir que ce que nous faisons moralement a de l'impact sur Jésus. Ce n'est pas dissocié. Ce que Jésus en croit, je l'ai blessé. Jésus en croit, je l'ai blessé. Et nous en prenons conscience de plus en plus. D'où, si nous n'en prenons pas conscience, faisons un chemin. Faisons un chemin de croix. Faisons un chemin de croix et nous verrons que nous impactons le Seigneur. Voilà. Ce n'aura pas pour but de nous culpabiliser à l'outrance. Le Seigneur ne veut pas nous culpabiliser. Ce sera pour but de prendre conscience que nous avons blessé Dieu. Et ce sera pour but aussi, en voyant le Christ, ce que Pilate a dit. Voici l'homme. Il a été prophète en disant ça, en montrant le Christ flagellé. Voici l'homme. Ce sera pour but de montrer la condition vraiment de l'homme. Le Christ crucifié montre la condition de l'homme. Il montre l'homme blessé à lui-même réellement. C'est le miroir. Avant, au départ du chemin, on se pense très bien. Et puis, avec le temps, on voit effectivement qu'on est moins bien qu'on pensait, que c'est plus dur, qu'en fait, on a fait souffrir son Seigneur et en même temps que nous-mêmes nous sommes très blessés. C'est pour ça que le chemin, plus il se fait, plus on devient saint et plus, quelque part, le saint prend conscience qu'il est pécheur. C'est tout à fait normal. Et en même temps, ça ne s'arrête pas là. Le ressuscité nous aide à faire ce chemin. Curieusement, c'est Jésus-Christ ressuscité qui nous aide à faire un chemin de croix, à faire un chemin vers la lumière. Parce qu'il est là. Il ne pourrait pas être là s'il n'est pas ressuscité. Donc il nous dit, confiance, j'ai vaincu la mort. Confiance, j'ai vaincu le péché. Confiance, je t'ai pardonné. Confiance, la lumière est au bout. La résurrection est au bout. Ce n'est pas une impasse. Ce n'est pas une impasse. Et donc nous pouvons faire ce chemin de connaissance de nous-mêmes, de conformité à Dieu, même si c'est dur, même si ça va prendre du temps, avec l'aide de Dieu, parce que le Christ est ressuscité et il va nous aider. Sur ce chemin, le Christ aide. Vous voyez, le Seigneur, intérieurement, si nous le suivons, va nous faire comprendre la vérité de ce que nous demande l'Église. Le pourquoi s'est fondé, le pourquoi ça fait vivre, le pourquoi ça fait connaître le Christ, le pourquoi ça m'éclaire sur ma condition humaine, le pourquoi il faut le vivre dans l'esprit, la vie dans l'esprit, avec Jésus, sinon c'est pas possible. Nous allons le comprendre profondément dans notre intelligence. Nous allons en voir la cohérence. Et petit à petit, va s'unifier en nous le fait que tu enlèves un iota de la loi, tu enlèves toute la loi. Ne change pas. Toute la loi, c'est comme une pelote de laine. Tu en enlèves un morceau et tout qui part. Garde tout. Voilà. Nous allons découvrir cette vérité qui, au départ, nous semblait un petit peu étrangère. On aurait pu la remettre en cause, prendre un autre chemin. Ça va s'éclairer. Voilà. Ça va s'éclairer, réellement. Donc le Seigneur, quelque part, en le suivant sur le chemin, fait œuvre de guérison de l'intelligence, de guérison de la connaissance de l'homme sur ce qu'il a fait à Dieu, sur ce qu'il est, sur la présence de Dieu qui veut l'aider, et aussi il voit le but. Mais ce n'est pas suffisant. Si nous en restons là, le chemin sera encore extérieur à nous. Le chemin est transformant. Alors, comment pourrait-on dire ça? Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui prie, quand vous voyez quelqu'un qui prie, qui commence à prier, voilà, petit à petit, il grandit dans la prière, il pose des actes de foi. Au départ, il doutait sur la présence de Dieu, il n'était pas vraiment sûr. Et puis, petit à petit, ça vient, sauf grand choc du Seigneur d'un coup, ça vient progressivement, ça chemine progressivement. Et à un moment donné, sa conception de Dieu, c'est la même, mais l'intensité avec laquelle il aime son Seigneur a changé. C'est devenu clair, c'est devenu certain. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa foi est devenue plus vive. Il a été transformé intérieurement. Cette même personne, après, commence à parler de Dieu, commence à vouloir conformer sa vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le chemin est transformant, elle est en train d'imiter Jésus. Et plus ça va se faire, plus la personne va être certaine que c'est le bon chemin. Et là, nous vérifions la vérité du christianisme expérimentalement, nous en sommes saisis, et elle commence à imiter Jésus. Voilà, le chemin est transformant. Transformant. Si nous l'empruntons, il est exigeant, mais il est transformant. En mystique, on parle d'ailleurs de ce chemin spirituel comme le chemin de l'union transformante. On va vers, jusqu'à être uni complètement à Jésus et complètement transformé. Donc ces étapes de vie morale qui suit à la suite du Christ vont nous transformer. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va prendre des éléments de transformation? La première chose, c'est que généralement, sur le chemin, déjà on calcule. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Petit à petit, on va apprendre à poser de plus en plus d'actes de foi en disant « Seigneur, je suis, mais je ne sais pas où on va. Je sais que c'est le bon chemin, on y va. » Au départ, on n'aime pas ça parce qu'on est très sécuritaire. Petit à petit, on va avoir un lâcher-prise, un lâcher-prise. On va rentrer dans le chemin de plus en plus dans l'abandon. Il va m'arriver une tuile dans ma vie, je ferai confiance parce que j'ai appris à accepter que le chemin est obscur mais il conduit à la lumière. Voilà, j'ai une difficulté sur tel ou tel point de la vie, chrétienne, vie morale, je sais que le Seigneur va m'aider à ce moment-là et que petit à petit je franchirai le chemin en son temps. Voilà, j'ai qu'à suivre le chemin et à rester dans la vérité que le Seigneur me donne. Ok, dans ce même chemin, petit à petit, je vais découvrir que le Seigneur m'a aidé à franchir ce chemin. Je vais me retourner en disant « Ah, j'ai fait tout ça !» Et je rentre dans la gratitude. Je rentre dans la gratitude. Vous voyez, il y a un décentrement qui se fait. Nous nous tournons de plus en plus vers Dieu. Et au lieu de penser qu'à nous, en disant « Mais comment je vais m'en sortir sur le chemin ?» Au bout d'un moment, on dit « Bon, le Seigneur, on marche ensemble et je vais m'en sortir. » Puis à la fin, « Bon, le Seigneur, je te suis puis je vais t'aider. »« Ah, le Seigneur, on y va, quoi !» Donc il y a un décentrement progressif qui se fait et la personne rentre dans la gratitude. Ça, c'est valable dans sa prière. Et c'est valable pour elle-même. La personne n'a pas envie au départ de devenir parfaite pour être parfaite. À la fin, elle a envie d'être parfaite pour plaire à Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Voilà, la vie morale, c'est une vie pour faire plaisir à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pas pour être des gens impeccables. Et tout ça, ça monte progressivement, vous voyez, une gratitude. De la même manière, au départ, on y va, force du poignet, hein, faut y aller. Nickel, mes règles de vie et tout. Et c'est bien, si on ne commence pas de manière, avec une forte détermination, comme dirait Thérèse d'Avila, pas la peine de prendre le chemin. Le royaume de Dieu est fait pour les violents, dit le Christ. Les doux, c'est pas la peine. Ça nous rend doux, mais il faut de la volonté. Donc on y va. Mais petit à petit, on se rend compte que le chemin, il est un peu plus montant qu'on pensait. Et c'est plus dur. Alors on réessaye, parce qu'on est quand même des gens de bonne volonté. Une fois, deux fois. Puis on dit, ben non, Seigneur, je suis embourbé sur tel ou tel péché. Là, j'arrive plus. Là, je comprends pas. On va s'arrêter. Et Seigneur, il commence à nous dire, ma force déploie dans la faiblesse. Et puis il nous dit aussi, en fait, tu t'es pas appuyé sur moi depuis le départ. T'as fait 5 mètres, mais t'as fait ça tout seul. Il faut faire ça avec moi. Alors on dit, bon, ben tu m'aides alors. Et on repart. Ah, ça va mieux. On repart. Et puis on repart tout seul. Parce que généralement, on n'a pas compris tout de suite la leçon. Et on se plante à nouveau. Alors on redemande l'aide. Je t'oublie pas. Et en fait, on retombe à nouveau. Et au bout d'un moment, on se dit quand même, ce que dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est peut-être vrai, on peut faire beaucoup de choses, mais suivre le chemin spirituel, moral, avec le Christ, la vie dans l'esprit, il n'y a que lui qui peut m'aider. Et du coup, on devient dépendant. Et la vie chrétienne, c'est un chemin de dépendance. Si vous devenez dépendant en tout, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous ne vivez plus de manière ordinaire, mais extraordinaire. Et du coup, on comprend l'objection au départ. Ah oui, mais la vie morale, c'est pas possible. Hein. Ce que vous dites, l'Église, c'est trop dur. Ah oui, mais mon grand, t'as pas dit de le vivre simplement humainement, t'as dit de le vivre avec Dieu. Donc t'apprends à être dépendant. Et Dieu va t'aider, parce que c'est la vie dans l'esprit. Donc il ne s'agit pas de remettre la loi. Il s'agit de la vie de tout ton cœur, avec tout ce que t'es, et avec l'aide de Dieu. Et tu vas apprendre à être dépendant. Et en étant dépendant, ça va marcher. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va marcher. Et cette dépendance, voyez-vous, c'est vraiment une transformation. C'est vraiment une transformation de Dieu en nous qui opère en nous une forme de pauvreté et on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire. Et à un moment donné même, parfois, les gens ils se disent « Mais je stagne ». En fait, Dieu est complètement... Il travaille, mais il ne montre pas le chemin qu'il est en train de faire. Et la personne se retourne plus tard en témoignant à quelqu'un, à son père spirituel, à n'importe qui. « Oula, j'ai fait tout ce chemin !» Et oui, c'est Dieu qui marchait. Voilà. Donc, le chemin est transformant. Il faut y croire. Et vous verrez petit à petit sur ce chemin que c'est un chemin de miséricorde, que chaque chose qui vous est donnée de faire, c'est par miséricorde de Dieu. C'est par miséricorde de Dieu. C'est reçu, c'est donné. Voilà. Ou même si vous avez été préservé de telle ou telle pierre sur le chemin, c'est par miséricorde de Dieu. Ce que dirait notre curé, citant souvent Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux avait conscience qu'elle ne valait pas mieux que le grand pécheur, mais si elle n'avait pas fait le grand péché, c'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, l'avait protégée. Vous voyez ? Donc vraiment, le chemin moral n'est pas un chemin de perfection sans être le meilleur, mais de plaire à Dieu et aussi de recevoir la miséricorde. Voilà. Maintenant, le chemin est véritablement un chemin, donc j'ai parlé un chemin de vérité, un chemin transformant, on peut dire de vie, parce que c'est un chemin, vous voyez, qui nous rend heureux. La vie chrétienne est unifiante. La vie chrétienne est unifiante. Plus on suit le Christ, plus on est unifié, et c'est le bonheur. Mais le bonheur se construit. À la différence d'aujourd'hui, on pense le bonheur en mode adrénaline, il faut du ressenti. Donc ça fait en mode courbe. Le bonheur, c'est du durable sur du long terme et ça se construit. Donc, on peut galérer sur un point pendant longtemps, mais avec persévérance et la grâce de Dieu, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut, dit Luc. Avec la persévérance et la grâce de Dieu, nous construisons aujourd'hui le chemin. Et peut-être que cette épreuve d'aujourd'hui va nous faciliter le chemin de plus tard. Donc nous construisons le chemin et nous sommes en train de construire notre bonheur. Voilà. Et ça, nous n'en mesurons pas les fruits, mais c'est vrai. Voilà. Et c'est vraiment un chemin de joie, vous voyez. Quand nous vivons cela dans la confiance, dans la dépendance à Dieu, dans l'abandon et en même temps la volonté qui s'engage complètement et l'obéissance, j'accueille la vérité de Dieu, toute sa loi, rien que sa loi. Je vous assure que c'est un chemin de joie. Alors nous allons parler sur la notion de liberté. Il faut s'arrêter un petit moment là-dessus parce que le Seigneur, on peut mettre en parallèle Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie » avec Jean 8, 32, le Seigneur qui dit « Demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous le rendra libre. » Nous cherchons la liberté, mais nous ne comprenons pas la liberté parce que nous sommes marqués par une époque contemporaine qui a détourné la liberté de la vérité. Il n'y a plus de vérité, mais il y a une liberté en soi. La liberté n'est jamais un en soi, elle est orientée vers le bien, le vrai, le beau. Ce n'est pas un en soi. Permettez-moi de faire un petit exemple pour vous expliquer cela. Ce que pensent là, généralement les personnes, et nous les premiers, c'est que la liberté, ça consiste à choisir telle chose, telle chose, telle chose, sans contrainte. En réalité, c'est que la première et la plus petite étape de la liberté, ça s'appelle le libre arbitre. Je peux choisir une bouteille, je peux choisir de faire du piano. Je prends cet exemple pour expliquer bien les choses. Et on croit que c'est ça la liberté. Et pourvu qu'on reste toujours libre, comme ça on est libre. Pas du tout. C'est juste l'action du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que la liberté que propose Jésus ? Effectivement, le suivre est une contrainte. Mais quand il dit que si nous demeurons dans la vérité, nous ne serons plus libres, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Si vous prenez une bouteille sans contrainte, vous la buvez, une bouteille d'alcool, bien à fond, parce qu'il faut persévérer dans ce que nous avons choisi, nous voyons que nous n'allons pas devenir libres, mais que nous allons devenir esclaves de l'alcool, parce que l'objet est mauvais. Il est bon, peut-être au départ, mais sur du long terme et comme un absolu, ben, ça nous conduit à l'esclavage. Donc on voit que la liberté est liée à la vérité ou non. Et là, en l'occurrence, la bouteille m'a rendu esclave. Si vous prenez un piano, sans contrainte bien sûr, il ne faut pas être forcé à suivre le Christ. Tout le monde est libre à suivre la morale. Personne n'est forcé à suivre le Christ. Si librement vous prenez le piano, comme vous dites, ben voilà, je suis libre, mais vous ne savez pas jouer du piano. Si vous prenez un piano, vous commencez à prendre des gammes, c'est contraignant, très intéressant. Vous répétez souvent, c'est contraignant, souvent, durée, très intéressant. Et au bout d'un moment, vous commencez à savoir faire un petit morceau. Il faut du temps, de la contrainte, de l'engagement, de la durée, de la fidélité, de la répétition, un plus grand morceau. Vous jouez bien, enfin. Puis vous jouez tellement bien que vous arrivez à être musicalement quelqu'un qui peut improviser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Musicalement, vous êtes enrichi. Vous avez enrichi votre être. Vous avez donné plus de liberté à ce que vous êtes. Donc on voit que la liberté est liée à un engagement sur quelque chose de bon qui se contraint, qui dure dans le temps pour gagner plus et être libéré. La liberté que nous propose le Christ est une liberté de qualité. Elle implique l'engagement, la contrainte, durée. Et une durée. Et souvent, nous pensons que la liberté telle qu'on la conçoit, c'est sans engagement, sans effort, sans persévérance, et qu'on veut rester libre. Eh bien, ce n'est pas vrai. La vie morale n'est pas comme ça. Si nous voulons le bonheur, il faut se contraindre, pourvu que l'objet soit bon, et nous vérifierons existentiellement s'il est bon. Et en l'occurrence, avec le Christ, ça va nous rendre heureux, mais ça va nous libérer. Voyez, le Christ est venu pour une liberté de qualité pleine. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en plénitude. C'est ça la liberté. Et si on voit que la connaissance de Dieu s'améliore, que notre connaissance sur nous-mêmes, objet de miséricorde, même si nous sommes de plus en plus, nous nous reconnaissons pécheurs, mais objet de plus en plus de miséricorde, libérés, pouvant utiliser tout notre potentiel, qu'est-ce qu'on est en train d'acquérir là? Le salut. Le chemin spirituel, le chemin moral, si tout est lié, c'est un chemin de salut. Voilà. Et quelqu'un qui chemine ainsi, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il est comme le Christ au départ, ceux qui lui avaient dit « Maître, où demeures-tu ?» Il devient attrayant. Parce qu'on sent en lui quelque chose d'unifié, quelque chose de « Ouais, c'est vraiment lui. » On sent que ça l'a bonifié. Il est à l'aise. En fait, il est attirant. Il devient un chemin pour les autres. En suivant le Christ aujourd'hui, ce que nous faisons, nous nous préparons à revivre l'itinéraire de notre baptême, à refaire les vœux de notre baptême, les promesses de notre baptême à Pâques. Mais nous voulons être des hommes et des femmes attirants. Des hommes et des femmes qui conduisent à Dieu parce que le Christ est notre chemin. Voilà. Et nous savons que là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Là où les saints cheminent, Dieu chemine avec eux. Donc vous voyez, ce chemin, nous le faisons pour aimer le Seigneur, pour nous transformer. Mais le Seigneur avec nous va nous rendre attirants, va nous rendre beaux. Et d'autres vont se mettre en marche. D'autres vont se mettre en marche. Voilà, que le Seigneur, qui est le chemin, la vérité, la vie, nous aide à vivre cela du fond de notre cœur.